Marc Bidou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le PDG de Bilendi. On parle avec vous au Large et Mid Cap Event de votre actualité et des perspectives. Vous avez publié il y a quelques jours vos résultats semestriels. Globalement, on peut dire que tous les feux sont au vert pour vous.
Oui, on continue la croissance de la société. Donc, on a fait une belle croissance sur le premier semestre de 9,6% qui combinait de l'organique et de l'acquisition. Et surtout, on montre que notre modèle nous permet d'augmenter beaucoup plus vite la rentabilité, puisqu'en parallèle, l'EBITDA a cru de quasiment 24%.
Sur la manière dont vous progressez, on va parler de marché des études notamment. Vous dites que vous faites de plus en plus de contrats multi-pays, que ça peut avoir un impact effectivement sur vos comptes.
Oui, effectivement, on peut faire ce qu'on appelle un contrat local, c'est-à-dire l'Allemagne vendra un terrain sur l'Allemagne, ou un contrat multi-pays, l'Allemagne vendra l'Allemagne, l'Angleterre, la France, le Danemark par exemple. Donc dans ces cas-là, le bon de commande est plus élevé, et donc 2 fois, 3 fois, 4 fois plus élevé, et on va bénéficier en fait du revenu dans les différents bureaux, donc c'est ce qu'on cherche à développer. Ça représente 20 à 30% de notre chiffre d'affaires, et ça prend une part de plus en plus importante avec le développement du groupe.
C'est lié aussi, bien entendu, on imagine, aux besoins des clients d'avoir ce réseau-là.
Oui, parce que les grands comptes internationaux, les grandes sociétés, à travers les instituts d'études, vont nous acheter des études pan-européennes, ou même certaines sans mondiales. Ça a toujours existé, mais je dirais qu'on y avait peu accès au début, où nous étions un acteur quand même assez local. Comme depuis 2 ou 3 ans, nous avons maintenant 12 pays en Europe, on est rentré dans la première division, je dirais, dans la catégorie des sociétés capables de fournir des échantillons globaux.
Comment il se porte ce marché-là globalement? Il y a des besoins en permanence?
Ah ben la data, on n'en a jamais autant parlé. Les gens veulent tout savoir sur tout, veulent mettre des chiffres derrière tout phénomène. Donc on est complètement dans le sens de l'histoire et dans l'évolution. Autrefois, on disait ça monte ou ça descend. Maintenant, on veut tout mesurer, mettre des mots magiques de KPI ou autre derrière tous les phénomènes. Donc il y a un besoin de données exponentiel. Et le phénomène, c'est qu'autrefois, on ne vendait qu'à des instituts d'études, mais maintenant, tout le monde veut de la donnée. Et nos clients peuvent devenir aussi des cabinets de conseil qui vont avoir besoin de données, des agences médias, des agences de RP qui peuvent initier des projets d'études.
Les freins, ils peuvent être parfois réglementaires. De quel ordre ils peuvent être les freins aujourd'hui?
Alors oui, effectivement, tout ce qui tourne autour des données personnelles, on touche à des choses très sensibles, puisqu'on peut toucher à de l'opinion, des données de santé, des données de comportement. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Et le RGPD a impacté notre activité. Mais pour moi, c'est quelque chose de plutôt de positif. D'abord, au niveau fondamental, je suis complètement en accord avec tout ce que le RGPD a mis en place en Europe. Et ça a obligé les acteurs à se structurer. Et derrière, les achats se concentrent sur peu de fournisseurs gros et établis dont nous faisons partie.
Aujourd'hui, ça c'est à peu près en place, voilà, parce que c'est vrai que ça avait été un peu compliqué. Il y a des sites étrangers qui ne le sont pas encore, mais en Europe, ça a été
Alors, il y a
compliqué.
dans certains secteurs, tout n'est pas forcément en place. Maintenant, je pense dans notre secteur des études de marché, on y est tous très sensibles et on est tous conscients du risque. Et il y a une vraie responsabilité du secteur on ne plaisante pas quand on est sur des données d'opinion, des données de santé. Et je pense qu'on est vraiment dans un secteur d'activité qui porte une attention vraiment toute particulière.
L'autre marché, hein, aussi historique pour le groupe, c'est la fidélisation. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce marché-là? Parce qu'on a l'impression que le consommateur, bah, il est de moins en moins fidèle. Vous qui êtes vraiment au jour le jour sur ces aspects.
Oui, il est de moins en moins fidèle, de plus en plus sollicité. Donc, quelque part, les opérateurs ont de plus en plus besoin d'outils marketing pour les retenir. Donc, oui, le secteur de la fidélisation se développe. Il n'y a jamais eu autant de programmes de fidélité. Les schémas évoluent. On ne parle plus du tout des mêmes schémas d'il y a 10 ans ou d'il y a 20 ans. Donc, il faut savoir évoluer. Voilà, c'est un secteur dans lequel on est toujours, mais ça représente à peu près 20-25% de notre chiffre d'affaires, pas plus. Et c'est un secteur qui est compliqué dans le sens où il y a plein d'opérateurs non comparables, depuis une SS2I, une agence de communication, une plateforme web. Et ce n'est pas un marché aussi facile à cerner que peut l'être notre marché principal des études de marché, où on définit de manière beaucoup plus simple notre environnement concurrentiel.
Donc là, oui, il y a peut-être une multitude d'acteurs qui viennent sur ce marché se positionner
Voilà, donc
rapidement.
nous, l'important, c'est de se développer, mais on n'est pas en train de dire qu'on va prendre X% d'un marché qu'on a d'ailleurs du mal à chiffrer. Je ne suis pas capable de vous mettre un chiffre. Le SRM, c'est des dizaines de milliards, d'accord, mais concrètement, notre marché, je n'ai pas de chiffre précis. Donc on est plus dans une logique de croissance. En revanche, dans le secteur des études de marché, je sais très bien la taille du marché, la part en Europe, les parts de marché de chacun.
Sur le développement, donc on a effectivement l'international. Quelles sont les priorités? Bon, il y a cette croissance organique qui est là, mais sur notamment la croissance externe pour vous, ça va consister en quoi?
Alors, on a un objectif très clair, hein, d'ici 3-4 ans, de passer de 30 millions à 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et un EBITDA de 20 à 25%. Pour ça, ce sera combiner l'organique que nous faisons et continuer, et faire des acquisitions. Et pour atteindre cet objectif, il faudra racheter à peu près 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, donc on est actif, on a fait une petite opération au début d'année, on a un flux continu de sociétés qu'on regarde. Voilà, donc on a toujours été actif, je n'annonce rien de particulier, mais ça peut se concrétiser ou pas. Mais effectivement, on en fera dans les mois et les années à venir.
Ça veut dire qu'on peut s'imaginer, compte tenu de ces projections, que la partie marché des études aura encore grossi?
Oui, oui. La fidélité, dans la mesure où on ne regarde pas vraiment d'acquisition dans ce secteur-là, risque d'être plutôt diluée par le fait que l'activité études de marché croît davantage. Ça ne veut pas dire qu'on ne porte pas attention à la fidélité, mais elle est moins au cœur de la stratégie du groupe.
Sur les perspectives, donc, qu'est-ce que vous dites typiquement aux investisseurs que vous rencontrez aujourd'hui? Comment se présente-t-elle?
À la fois, on est sur un secteur qui est en croissance, on gagne de l'argent, nos concurrents sont aussi en croissance et gagnent aussi de l'argent, donc c'est intéressant d'être dans un secteur où tout le monde croit, tout le monde gagne de l'argent. Ce n'est pas un secteur où il y a une pression sur les prix absolument suicidaire, parce que nos concurrents sont tous sous LBO, donc ils ont un souci de free cash flow significatif. Donc on est finalement dans un secteur assez peu connu, mais qui est, je dirais, globalement plutôt privilégié par rapport à d'autres secteurs d'activité.
Mmh. C'est-à-dire que oui, les investisseurs n'ont pas forcément en tête ce marché d'études, ils connaissent peut-être d'autres acteurs qui sont dessus, mais ils n'ont pas encore intégré ce secteur-là, parce que vous dites qu'il y a d'autres acteurs aussi, donc ça veut dire qu'ils ne l'ont pas forcément identifié dans leur piste d'investissement.
Tout à fait, surtout qu'il y a peu de sociétés cotées en bourse. Alors, il y a les secteurs des études de marché, qui est un gros secteur, où il y a des acteurs qui sont cotés en bourse, effectivement, mais nous ne sommes pas un institut d'études, les instituts sont nos clients, donc nous, on est ce qu'on appelle un panel provider, et on est le numéro 3 en Europe. Et nos deux gros concurrents anglo-saxons sont tous détenus par des fonds d'investissement. Donc, vu du côté des marchés financiers, je comprends qu'il y a peu de visibilité, mais on est un sous-segment du marché des études.
Voilà, en tout cas, ils peuvent le suivre ici, puisqu'on suit BND depuis maintenant nombreuses années.
Très longtemps.
Merci Marc Bidou.
Merci.